décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 14, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Nolwenn.
Salut Luc.
Bien sommaire.
On a 7 jolis articles cette semaine.
Ouh. 20 minutes online, le mobile, je l'appelle le rêve de Staline, une interview menée par Michel Hannesse.
Interview de Richard Stallman, le créateur du logiciel libre, qui se plaint à nouveau du téléphone portable en indiquant que c'est juste un outil d'espionnage.
Voilà, il appelait ça le Spyphone il y a quelques temps, et effectivement, c'est un super outil d'espionnage. Usbek Erika, 2/3 des Français préoccupés par leurs données personnelles, un article de Lila Megrawa.
Donc ça indique essentiellement que la vie privée, ça devient un sujet important pour les citoyens de notre beau pays, et c'est un sujet qu'on aime avoir à devenir plus important.
Oui. Petit rappel, c'est pas dans ta revue de presse, mais la semaine dernière, on a appris qu'il y a des données Facebook, donc refilées à un des multiples partenaires qui se retrouvaient sur Internet.
Il y en avait combien ?
Il y en avait 500 millions.
500 millions de personnes, oui, ça commence à faire bien. Hein. C'est pas mal, un demi-milliard. CXP, incontournable open source, un article de la rédaction.
Alors oui, en 2018, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, notamment des échanges de milliards de dollars. Red Hat a été racheté par IBM pour 34 milliards. Et ça indique essentiellement que le logiciel libre, c'est un bijou qui a une grosse valeur pour les entreprises qui se le récupèrent.
Voilà, mais pas pour vous, parce que vous n'y avez pas droit. Des grosses boîtes l'utilisent pour leur propre profit, mais ne donnent pas de liberté à leurs utilisateurs. Les numériques, Microsoft ferme le rayon livre de son store, un article de Mathieu Chartier.
Alors là, il y a un côté, on vous l'avait bien dit.
Oui, on vous l'avait bien dit.
Parce que effectivement, il y a un magasin d'applications et de contenu qui est en train de fermer. En soi, c'est pas choquant.
Des e-books.
Mais effectivement, des e-books protégés par des soi-disant DRM, des menottes numériques. Et bien là, en fermant leur magasin, ils indiquent à tout le monde, attention les gars, on efface à distance vos livres achetés sur vos liseuses, parce que ce ne sont pas vraiment les vôtres, à partir du moment où il y a des menottes numériques dessus.
Dès lors qu'ils ferment le système, leur service, le système de contrôle des fichiers arrête de fonctionner. Alors il est dommage.
Oui, ils remboursent les livres, c'est bien le minimum.
Oui, mais il y a aussi des notes qui sont associées à ces livres.
Ah, mais sache que ça va, parce qu'ils vont te rembourser 25$ pour tout ce que tu as pu faire sur ton livre numérique.
Tu es contente ? Trop la fête.
Grave.
L'ADN, écran publicitaire, comment éviter d'envoyer ces données aux marques, à un article de la rédaction.
Alors ça reparle d'informations personnelles, mais là c'est plus précis, ça concerne des écrans publicitaires.
Alors c'est des écrans publicitaires qui sont arrivés dans le métro, où en fait il y a des caméras et qui essayent de détecter les téléphones et autres.
Et qui récupèrent des informations techniques.
Du téléphone. Et donc il y a un développeur qui a fait une petite page internet qu'on peut héberger n'importe où. Et si vous y allez, ça génère des adresses MAC, en fait, les identifiants de votre téléphone de manière aléatoire. Et ça les soumet à l'agence de publicité en disant « Hey, je veux pas être suivi ». Et du coup, comme ça, on a démultiplié les possibilités de blacklister des centaines de milliers de téléphones dans la nature.
01net, article 17, 5 questions pour comprendre ce que cette nouvelle règle du droit d'auteur va changer. Un article d'Amélie Charnet.
Donc c'est l'article 17, mais en fait, ça correspond à l'article 13 dont on se plaignait beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça correspond à la directive droit d'auteur qui vient d'être passée au niveau européen.
Malheureusement.
Grand malheureusement. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Allez jeter un œil sur ce genre d'article-là. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place à la suite de cette directive, notamment au niveau français.
Technique de l'ingénieur, l'open source, des failles qui se multiplient. Un article de Philippe Richard.
Donc, alors, c'est pas un nouveau sujet là aussi. Il y a des failles dans le logiciel libre.
Dans tous les logiciels.
Alors oui, c'est ça qu'il faut toujours rappeler. Il y a plein de failles partout. Il se trouve que quand c'est du logiciel libre, c'est plus facile d'en parler et c'est plus facile de mettre du monde pour corriger.
Et c'est plus difficile de le cacher.
C'est plus difficile de le cacher en général. Mais ça a aussi révélé dans le passé qu'il y avait des logiciels libres utilisés par tout le monde, donc une grosse valeur, tout le monde sur Internet, et que ces logiciels libres étaient parfois développés par une seule personne. Et il est arrivé qu'il y ait des failles. Et maintenant, on se rend compte un petit peu qu'il faut investir là-dedans. Il faut encourager des développeurs, des équipes de développeurs, et que l'infrastructure qu'on utilise pour l'informatique de tous les jours, il faut s'assurer qu'elle fonctionne encore et toujours.
Alors c'est quoi notre sujet de la semaine ?
Eh bien on va parler encore censure et YouTube.
On avait fait une vidéo il y a quelques mois suite à un truc du joueur du grenier, qui est un type qui fait des vidéos assez marrantes sur des jeux, qui n'est pas du tout un libriste, qui est un peu sensible aux questions d'internet mais pas tant que ça.
Alors surtout depuis qu'il a une chaîne internet et que l'article 13 dit article 17 est en train de passer.
Et voilà, tout à fait. Et donc à l'époque c'était assez intéressant de voir l'importance et l'influence et le système qui se mettait en place au niveau de YouTube par rapport à la gestion question des droits d'auteur et des ayants droit. Donc si on résume le truc, quelqu'un qui fait une vidéo sur YouTube peut utiliser de la musique par exemple ou des images qui sont couvertes par un droit d'auteur, ou pas d'ailleurs, ou en tout cas qui sont revendiquées par un ayant droit qui dit « ces trucs-là sont à moi ». Et donc dans le système de YouTube, l'ayant droit peut récupérer 100% de l'argent généré par une vidéo, dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'un petit bout d'un truc qu'il a identifié à lui dans la vidéo.
Et donc après le joueur Goutte du Grenier et la musique d'Harry Potter qui avait été revendiquée par Disney, il y a Y Penser, donc Bruce Benhamran, qui fait de la vulgarisation scientifique sur une chaîne YouTube, qui a un petit million d'abonnés, hein, donc c'est pas non plus un petit inconnu.
Il a une certaine notoriété, il passe avec des stars comme Alexandre Astier dans différentes conférences.
Et donc il a fait une vidéo sur un petit bluesman américain qui est mort il y a 70 ans.
Donc son œuvre est dans le domaine public.
L'œuvre est dans le domaine public, et donc il a illustré cette vidéo-là avec 10 secondes d'un extrait musical composé par cette personne-là. Un des ayants droit qui a décidé de récupérer la monétisation de cette vidéo-là. Et Bruce, pas du tout d'accord, bien entendu, puisqu'il y a le droit de citation en France.
Et qu'en plus de ça, c'est dans le domaine public.
Ce serait compliqué puisque la mélodie en elle-même est dans le domaine public, mais l'interprétation qui a été faite à ce moment-là, potentiellement, est bien détenue par des maisons de disques ou autres. Mais en tout cas, il a dit non, ça fait partie du droit de citation 10 secondes sur une vidéo de plusieurs minutes, il n'y a pas photo. Et donc, il a un bouton faire appel dans YouTube, sauf que cet appel-là est traité par l'ayant droit lui-même.
C'est un recours gracieux.
Voilà, un recours en disant voilà mes arguments, pourquoi j'ai le droit de faire ça, et puis légitimité de le faire. Sauf que c'est l'ayant droit qui récupère ce truc-là, qui doit le traiter. Et donc là, l'ayant droit dit non, moi je maintiens ma démonétisation. Et donc là, il y a une espèce de deuxième appel possible de fait, mais qui va encore une fois auprès de l'ayant droit, et avec un mécanisme un peu particulier, au sens où si jamais cet appel-là est refusé, donc toujours par l'ayant droit, vous recevez ce qu'on appelle un strike.
Donc un avertissement. Je viens de regarder la traduction.
C'est un avertissement dans YouTube. Donc le premier, on vous supprime la vidéo en question et on vous suspend vos droits pendant une semaine. Au deuxième, on vous supprime la vidéo et on vous suspend pendant deux semaines. Et au troisième, on vous strike complètement votre chaîne YouTube. On vous supprime toutes vos vidéos et votre compte disparaît juste de la surface de la planète. Et donc Bruce Benhamran a déjà plusieurs dossiers de ce cas-là.
Benhamran.
Bon, Y Penser a déjà plusieurs... cas comme ça en cours de gestion. Donc il y a la première vidéo qui va se faire striker le 8 avril, il y en a un autre qui va se faire striker le 24 avril, et donc il attend son troisième strike prochainement, et donc ça risque de disparaître.
Alors il semblerait, et on est en train de regarder quasiment en temps réel, que lui-même a réagi là, il y a deux jours, et que sa chaîne a été passée en mode privé.
Ouais, voilà. On enregistre lundi soir, il y a plus rien ou presque sur sa chaîne. En gros, c'est lui qui a pris les devants, a priori, c'est ça.
Après, il n'y a plus rien ou presque sur sa chaîne, ou c'est juste que nous, on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas abonné à sa chaîne.
Elle est marquée comme privée. Non, même si on était privé, abonné, vraisemblablement, elle est privée, donc il n'y a plus que lui qui y a accès. Peut-être qu'il peut partager, mais globalement, il a, en quelque sorte, retiré tout ce qu'il avait fait comme contenu sur YouTube. Alors, il y a quelques exceptions, mais c'est rare. Et en gros, d'après son compte Twitter, il l'a fait exprès, en quelque sorte, pour se plaindre à YouTube de ne pas avoir de... tierce personne qui prend part dans son conflit avec l'ayant droit.
Mais parce que là-dedans, YouTube, en gros, à chaque fois, si c'est l'ayant droit qui voulait récupérer le pognon, qui juge à chaque fois, YouTube, là-dedans, n'intervient pas, quoi.
Ah non, puis il pensait à essayer de se rapprocher de YouTube en disant, attendez, je fais deux appels, mais c'est toujours la même personne qui me répond, enfin, faut peut-être trancher un peu et vous mouiller. Et en fait, YouTube a dit non, les conflits entre tiers, ça ne nous regarde pas, vous voyez ça avec, entre vous, et nous, on n'a pas notre mot à dire. Donc ne pas prendre position, c'est bien sûr prendre position.
Voilà, c'est une neutralité qui est quand même pas très, très honnête.
Surtout que Bruce, en fait, a décortiqué tout le mécanisme de Content ID derrière, et il montre bien, en fait...
Content ID,
c'est le filtrage, enfin, c'est pas un filtrage, du coup, il explique bien comment ça marche, et c'est pas un filtrage au sens où c'est pas un robot qui va prendre la décision. En fait, les ayants droit mettent à disposition de YouTube l'intégralité de leur catalogue,
de ce qu'ils veulent référencer.
Le Content ID navigue dans YouTube à partir de règles en fonction du nombre de visiteurs d'une vidéo ou autre, et va rapporter à l'ayant droit toutes les vidéos qui contiennent un morceau d'extrait sonore ou vidéo de son propre catalogue. Et là, il y a des outils pour en gros sélectionner tout, démonétiser. Et donc, c'est juste de l'abattage fait par l'ayant droit.
L'ayant droit n'a pas nécessairement l'obligation de justifier qu'il a effectivement les droits dessus. Et après, on peut imaginer sans mal qu'il ne va pas faire dans la dentelle et récupérer tout le pognon qu'il peut. Ouais.
Et on en arrive à des cas comme Y Penser, il était intervenu à France 4 dans une émission qui a diffusé du coup un magnéto de ses propres chaînes YouTube. Et sauf que du coup, France 4 a réclamé la démonétisation de sa vidéo parce qu'il considérait que c'était du contenu France 4, alors que non, en fait, c'était du contenu de Y Penser qui était diffusé sur France 4.
Alors, la solution qu'il aurait, ce serait de faire un vrai procès.
Bah, c'est compliqué. Déjà, il faut trouver la bonne juridiction.
Comment ça ? C'est compliqué de trouver la bonne juridiction ?
Si on parle de YouTube, ça va être dans un tribunal au fin fond de la Californie, risque d'y avoir les ayants droit au Texas, où on sait pas trop où, le droit français qui va donner les droits de citation, le fair use qui existe aux États-Unis mais pas en Europe. Enfin, c'est un vrai merdier abominable.
Hormis le fait que ça coûte une fortune, en gros, s'ils se lançaient là-dedans, ça allait coûter beaucoup d'argent. On peut supposer que ce sera fini dans 10 ans. Et en attendant, l'ayant droit, lui, il a le doigt sur le bouton et il fait ce qu'il veut.
C'est
quoi.
Ça. Sachant qu'on est dans un champ qui est en train de bouger, l'article 17 donc, qui vient d'être voté peut chambouler tout ça.
Bah là, pour le coup, ça serait peut-être presque intéressant puisque l'article 17 imposerait d'avoir un tiers neutre pour justement les appels et les prises de décision en cas de conflit, ce qui permettrait peut-être de
résoudre ce cas-là,
en particulier. Après, c'est toujours pareil, si le tiers neutre, en fait, n'est pas si neutre que ça, et toujours la seule des ayants droit, parce que ça m'étonnerait que ça vienne d'un artiste ou d'un truc comme ça. Donc,
là, on voit Google, on peut supposer que, vu tout ce qui se prennent dans les dents avec les ayants droit qui veulent leur prendre l'argent, et justement cette loi qui vient de passer, qui vise quand même en grande partie à leur pomper de l'argent.
Et avec les États, la France a envie de récupérer de l'argent aussi.
Bah, du coup, ils veulent fâcher personne et vont dans le sens de celui qui tape le plus fort. Quoi. Bon, pour moi, ça démontre que tous ces systèmes de surveillance automatique sont inefficaces.
Et puis les systèmes de centralisation. Ouais. Le contenu centralisé, là, c'est un moyen facile de bloquer une personne de toute son existence numérique, quasiment.
Voilà. Celui qui a la main sur le système a le pouvoir et fait ce qu'il veut. Et il peut choper 100% des revenus d'une vidéo alors qu'il n'y a qu'une toute petite fraction qui est couverte par un droit d'auteur.
Après, la centralisation aussi des intérêts. Par exemple, la modération est très difficile à faire dans un contexte distribué, puisque du coup, chaque personne va devoir se prendre par la main et faire le boulot, alors qu'on a vraiment des gros gains à centraliser tout et avoir une modération centrale avec des vraies personnes formées, y compris au niveau psychologique. Par exemple, si on parle de censure terrorisme, y a intérêt à avoir le cœur bien accroché ou aller voir de la pédopornographie.
Je pense que t'abuses en disant que les gens ont été formés. Il y a des documentaires là-dessus.
Le cas de Facebook qui est apparu il y a quelques mois, où justement, il y a des modérateurs qui sont en grande détresse psychologique parce qu'ils ont vu passer des choses vraiment pas sympa.
Et ils n'étaient pas formés du tout.
Et puis, début d'Internet, les modérateurs, c'est des communautés, donc c'est en général des bénévoles qui font partie d'une communauté avec des gens qui se foutent sur la gueule comme partout. C'est plus ou moins bien, mais il y a quelque chose de foncièrement humain, de foncièrement social dedans, et pas quelqu'un qui est payé pour cliquer toute la journée sur des trucs.
Il y a une alternative qu'on promeut ici, qu'on discute régulièrement, qui s'appelle
Peertube.
Peertube, voilà. Alors malheureusement, ça a été proposé, donc c'est décentralisé, c'est plutôt intéressant technologiquement, ça a été proposé à Bruce, donc le responsable de Ipensé, enfin le créateur d'Ipensé, mais il a mal réagi.
Qu'est-ce qu'il a répondu ?
En gros, il a répondu que Peertube, il y a du porn chelou et des snuff movies.
Voilà. Snuff movies ? Hein ? Quoi ?
Non, on va pas en parler. c'est pas un libriste. Il dit aussi qu'il est dans la défense de son bon droit, etc. Mais l'alternative l'intéresse pas trop. C'était à peu près le même topo avec le joueur du grenier quand il a fait sa vidéo. Donc c'est des gens qui ont une grosse audience. Et à mon sens, c'est une des faiblesses qu'on a aujourd'hui dans les alternatives qui sont proposées par le monde du libre. C'est que techniquement ça marche, puis c'est prometteur, il y a des gens hyper motivés, hyper compétents et plein de talents, mais il y a cette question de ce que moi j'appelle l'économie de la notoriété, c'est qu'il y a une rareté, c'est le fameux temps de cerveau disponible où
l'attention.
L'attention. Nos journées ne font que 24 heures, on passe quelques heures devant un écran, et le fait de découvrir quelqu'un, le fait de passer du temps à regarder, etc., tout ça c'est une rareté, et aujourd'hui les GAFAM sont très forts pour maîtriser ça. Et dans le libre, on n'a pas grand-chose.
Puis il y a l'économie aussi tout court, puisqu'il y a aussi le problème de la monétisation, même si ça pose beaucoup moins aujourd'hui comme question avec des alternatives comme Tipeee ou Patreon.
Mais c'est vrai que des outils de dons.
De dons directs.
Il y a aussi des gens qui font de la pub directe, même si moi, j'aime pas la pub. Ils peuvent être indépendants de la plateforme au niveau financier, mais dès lors qu'ils n'arrivent pas à exister dans l'espace et avoir suffisamment de public, même si ce qu'ils font est très bien, c'est foutu. Ça peut pas marcher, quoi. Enfin, à mon sens, c'est vraiment un truc sur lequel il faut réfléchir, sur nos propres alternatives et ce qu'on a à proposer.
Ça va sûrement évoluer, et puis ça va évoluer au niveau d'Ipensé, parce que là, sa chaîne passée en privé, ça va sûrement bouger. On va voir, est-ce qu'on en parle ? Pour l'instant, ça n'a pas été repris dans les médias. Peut-être qu'il n'est pas assez connu pour cela, pour l'instant. Ou peut-être que vous allez en entendre parler demain sur France 2, et puis on a arrêté les premiers, mais à en parler. Ouais. Bon, pour ce que ça peut servir. En tout cas, bonne chance à lui quand même, parce qu'il se retrouve confronté avec une machine invulnérable, et puis c'est pas lui qui va pouvoir la faire tomber.
Très bien, et nous, on reste indépendants de YouTube, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.